VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Bion à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 30 mars 2023. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été condamné à 2 ans de prison avec sursis.
La peine qui a été prononcée ne prive pas M. Ousmane Sonko de la possibilité d'être candidat à la présidentielle de 2024.
Réaction dans la partie magazine sur les conséquences de cette condamnation avec Maître Amadou Ly Ali Khan, avocat défenseur des droits de l'homme. Au Burkina Faso, l'état d'urgence entre en vigueur, cela dans 8 régions du pays. La vice-présidente américaine Kamala Harris est à Dar es Salaam en Tanzanie, 2e des 3 étapes de sa visite en Afrique. En Russie, un journaliste américain a été arrêté pour espionnage. Ne manquez pas dans notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant le journal. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été condamné à une peine de 2 mois avec sursis et à 200 millions de dommages et intérêts à payer au ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang, qui l'avait accusé de diffamation. Les détails avec notre correspondant à Dakar, Seydina Bagay.
Ousmane Sonko reste éligible, c'est la principale information retenue par les Sénégalais suite à sa condamnation à 2 mois avec sursis et à 200 millions de dommages et intérêts. Le juge n'a ainsi pas suivi le procureur dans son réquisitoire. Ce dernier demandait une condamnation de 2 ans, dont 1 an ferme pour diffamation, 2 ans, dont 1 an ferme pour faux en écriture publique et 3 mois ferme pour injure. De leur côté, les avocats du ministre Mbaye Niang ont demandé la somme de 29 milliards de francs CFA de dommages et intérêts. Le juge n'a donc ni suivi le réquisitoire du procureur ni les demandes de la partie civile. Cependant, les avocats du ministre du Tourisme Mbaye Niang sont satisfaits de ce verdict. Contrairement à leurs collègues de la partie civile, les avocats d'Ousmane Sonko ont quitté la salle avant le début des débats car pour eux, le verdict de ce procès a été décidé en haut lieu. Dans la capitale, peu de réactions ont été notées suite à ce verdict, à part des manifestations sporadiques, notamment à la cité Kurgurgi, où habite Ousmane Sonko. Ce dernier reste d'ailleurs sous le coup d'un procès pour le viol présumé de la masseuse Adjissar. Seydina Abagay pour VOA Afrique, Dakar.
En Côte d'Ivoire, l'ancien président Henri Konan Bédié, désormais opposant, a appelé ce jeudi les membres de son parti à s'unir pour remporter la prochaine élection présidentielle en 2025 après la défection ces dernières semaines de certains cadres de son parti. Henri Konan Bédié, qui a gouverné la Côte d'Ivoire de 1993 à 1999, n'exclut pas d'être le candidat du PDCI à cette élection. Des élections municipales et régionales doivent se tenir en septembre 2023, la prochaine présidentielle aura quant à elle lieu en 2025. Entrée en vigueur ce jeudi de l'état d'urgence dans 8 provinces du Burkina Faso, elle intervient alors que des organisations de la société civile dénoncent une restriction des libertés d'opinion dans le pays. Alexandrine Lognon.
Le gouvernement de transition, par la voix de son porte-parole, dit rester attaché à la liberté d'expression et d'opinion. Cette déclaration fait suite à la suspension lundi de la diffusion de la chaîne France 24. Toute chaîne aujourd'hui qui va faire l'écho de l'idéologie terroriste verra sur son chemin les autorités de la transition, a précisé Jean-Emmanuel Ouédraogo. Des organisations de la société civile ont dénoncé mercredi la négation systématique des libertés d'opinion. Le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples ainsi que le collectif contre l'impunité ont exprimé dans des communiqués séparés leur inquiétude après ce qu'ils qualifient de cas d'enlèvement et d'enrôlement forcé de citoyens comme supplétifs de l'armée dans la lutte contre les groupes djihadistes. Le militant Boukaré Ouédraogo a été enrôlé comme volontaire pour la défense de la patrie et 2 autres cas le week-end dernier à Ouagadougou. Hier, des individus ont scandé leur soutien au président de la transition après des coups de feu nocturnes dans la capitale.
Au Kenya, de nouvelles manifestations organisées ce jeudi par des opposants au président kenyan William Ruto ont de nouveau été marquées par des affrontements violents, des manifestants jetant des pierres à la police. Le chef de file de l'opposition, Raila Odinga, a appelé à des manifestations bi-hebdomadaires contre le gouvernement chaque lundi et jeudi, accusant le président William Ruto d'avoir volé la présidentielle d'août, d'être illégitime, mais aussi d'être incapable de juguler la flambée des prix. La vice-présidente des États-Unis décrit la présidente de Tanzanie, Samia Suluhu Hassan, comme une championne de la démocratie. C'était aujourd'hui à Dar es Salaam, lors de la deuxième des trois étapes de la tournée de Kamala Harris en Afrique. Jacques Aristide.
Madame Harris, première femme et première personne de couleur élue à la vice-présidence américaine, s'exprimait aux côtés de Madame Hassan, devenue en mars 2021 la première femme à diriger la Tanzanie. Samia Suluhu Hassan a succédé en tant que vice-présidente à John Magufuli, décédé brutalement. Elle s'est récemment efforcée de rompre avec l'héritage autoritaire de Magufuli et a multiplié les signes d'ouverture. La vice-présidente américaine a indiqué qu'elle allait, durant son séjour, discuter avec Madame Hassan de démocratie en la qualifiant de championne, de bonne gouvernance, de croissance économique à long terme et de la crise climatique. Sur le sujet de la croissance économique, la bonne gouvernance permet la prévisibilité, la stabilité et les règles dont les entreprises ont besoin pour investir, a déclaré Kamala Harris. Il y a un tel potentiel de croissance ici, a-t-elle ajouté. Madame Harris a parallèlement déposé une gerbe à un mémorial de l'attentat contre l'ambassade américaine à Dar es Salaam, capitale économique du pays, attaquée en 1998 en même temps que celle de Nairobi. Ces deux attentats quasi simultanés revendiqués par Al-Qaïda avaient fait plus de 200 morts et 5000 blessés. Le voyage de Madame Harris au Ghana, en Tanzanie et en Zambie s'inscrit dans les efforts de Washington de renforcer ses liens avec le continent afin de contrer l'influence de la Chine et de la Russie.
Les violences communautaires en cours dans l'ouest de la République démocratique du Congo ont fait au moins 300 morts depuis juin 2022, indique Human Rights Watch dans un rapport publié ce jeudi. En octobre, le gouvernement avait chiffré à plus de 180 le nombre de morts dans ce conflit entre les communautés Teke et Yaka. Il estimait que la situation était sous contrôle, mais le conflit qui a débuté dans la province de Maïdombe et s'est étendu à la province voisine du Kwilu a perduré. Les violences continuent. Amnesty International a appelé aujourd'hui les autorités tunisiennes à libérer des opposants et d'autres personnalités dans les milieux médiatique et des affaires. Dans un communiqué, l'organisation a demandé à Tunis d'abandonner l'enquête pénale visant au moins 17 personnes sur la base d'accusations de complot et libérer toutes les personnes détenues. Début février, les autorités ont lancé un coup de filet contre des personnalités, dont plusieurs ex-ministres, des hommes d'affaires et un patron d'une radio locale privée. Le président Kais Saied les a qualifiés de terroristes, les accusant de complot contre la sécurité de l'État.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie a annoncé aujourd'hui l'arrestation pour espionnage d'un journaliste américain du Wall Street Journal, Ivan Gershkovich, un cas sans précédent dans l'histoire récente du pays, dans un contexte de répression depuis l'offensive contre l'Ukraine. Les précisions de John Lydon.
Le Kremlin a affirmé que le reporter a été pris en flagrant délit et a mis en garde Washington contre toute forme de représailles contre les médias russes travaillant aux États-Unis. Jeudi, le service fédéral de sécurité russe a déclaré avoir déjoué l'activité illégale du correspondant accrédité à Moscou du Wall Street Journal. Le journaliste Ivan Gershkovich est soupçonné d'espionnage au profit des États-Unis et de collecter des informations sur une entreprise de complexes militaro-industriels russes. Ce chef d'accusation est passible de 10 à 20 ans de prison selon le code pénal russe. L'ONG Reporters sans frontières a dit à l'armée de ce qui semble être une mesure de représailles. La diplomatie russe affirme que le journaliste a été pris la main dans le sac.
Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, va présider à New York une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU en avril, mois durant lequel la Russie aura la présidence tournante de l'organe exécutif des Nations Unies. Plus tôt ce jeudi, l'Ukraine avait qualifié la future présidence russe du Conseil de mauvaise blague. La Russie doit prendre la tête de l'organe exécutif des Nations Unies à partir de samedi, et ce pour un mois, succédant au Mozambique. Charles III a déploré aujourd'hui le retour du fléau de la guerre en Europe en évoquant l'invasion russe de l'Ukraine lors d'un discours historique devant les députés allemands, soulignant cependant que les alliés peuvent puiser courage dans leur unité. La guerre russe contre l'Ukraine constitue une menace pour la sécurité de l'Europe et nos valeurs démocratiques, a-t-il dit dans une intervention d'environ une demi-heure tenue majoritairement en allemand et qui s'est terminée par un standing ovation. Et puis, la santé du pape François s'améliore après son hospitalisation pour une infection respiratoire et son traitement se poursuit, a déclaré aujourd'hui le porte-parole du Vatican. Dans un communiqué, le pape pourrait sortir à temps pour les célébrations du dimanche des rameaux le 2 avril, selon la même source. Le dimanche des rameaux marque le début d'une semaine intense de cérémonies menant au dimanche de Pâques, le 9 avril, jour le plus sacré du calendrier chrétien. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nathalie Barge.
La vice-présidente des États-Unis, Kamala Harris, a annoncé hier au Ghana une initiative d'$1 milliard pour l'émancipation économique des femmes en Afrique. L'initiative inclut près de 400 millions du secteur privé pour combler le fossé numérique entre les genres. Le bureau de Mme Harris a déclaré que l'amélioration du statut des femmes et filles n'est pas seulement une question de droits humains, mais aussi un impératif stratégique qui réduit la pauvreté et favorise une croissance économique durable. Au Nigeria, la pénurie de billets de banque s'est atténuée après la mise en circulation par la Banque centrale d'anciennes coupures et une menace de grève syndicale. Les files d'attente devant les distributeurs disparaissent à mesure que les clients ont accès à l'argent liquide. Le principal syndicat avait menacé de faire grève avant de reporter son action en fonction de l'évolution de la situation. Le Nigeria connaît une pénurie de billets depuis que la Banque centrale a commencé à changer en janvier les anciens billets de 200, 500 et 1000 naira. Le Parlement de transition tchadien a voté une loi entérinant la nationalisation des actifs d'Esso Tchad, dont N'Djamena conteste la vente à une compagnie britannique. Le texte a été adopté par 172 voix pour, une abstention et une voix contre, après un décret annonçant cette nationalisation qui stipule que les actifs et droits découlant des conventions, permis de recherche, autorisation d'exploitation et du transport des hydrocarbures de la Société d'exploration et de production Esso Tchad sont nationalisés.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Les dates officielles de la CAN Côte d'Ivoire 2023 ont été confirmées par la CAF.
Oui, le coup d'envoi de la fête du football africain va être donné le 13 janvier 2024 au stade Alassane Ouattara d'Evimpe à Abidjan. La finale aura lieu le 11 février. Sur la base de ses premières estimations, la CAF y prévoit des audiences télévisées et des fréquentations de stades records pour cette CAN 2023. Il s'agit de la 34e édition du tournoi qui revient en Côte d'Ivoire pour la deuxième fois après 1984 où le Cameroun avait remporté la compétition pour la première fois.
La FIFA retire à l'Indonésie l'organisation du mondial des moins de 20 ans.
La FIFA a pris cette décision en raison d'un imbroglio politique ayant empêché la tenue du tirage au sort. Le tournoi est prévu du 20 mai au 11 juin prochain. Un nouveau pays hôte sera désigné dès que possible. Les dates de la compétition demeurant pour le moment inchangées, précise l'instance mondiale du football dans un communiqué, évoquant de possibles sanctions à l'égard de la Fédération indonésienne de football.
Basketball à présent avec la NBA, les Sixers enfoncent les Mavs.
Philadelphie complique la tâche de Dallas, mais la bonne opération est à mettre à l'actif les Lakers. Bagasikura.
Oui, Embiid et les Sixers ont eu le dernier mot sur Dallas et Luka Doncic, 116 à 108 à 57 secondes du terme. Le pivot camerounais qui venait de remettre son équipe devant au score avec deux shoots cruciaux a fini son grand œuvre de potentiel MVP en infligeant un contre autoritaire au prodige slovène venu tenter la pénétration de la dernière chance. Embiid a compilé 25 points et 9 rebonds dans ce match et plombe les Mavs qui n'arrivent pas à raccrocher le wagon des barragistes à l'ouest. Le Thunder a battu Détroit 107 à 106 grâce à une claquette au buzzer de Jalen Williams, 27 points. Les Lakers se classent de mieux en mieux après leur victoire à Chicago, 121 à 110. Le Jazz a mis fin à une série de 4 revers, s'imposant à San Antonio, 128 à 117. Comme attendu, Sacramento a composté son ticket pour les playoffs en étriant Portland, 120 à 80. Les Kings mettent fin à une disette de 17 ans, la plus longue pour une franchise dans l'histoire de la Ligue, dans la lutte pour le top 6 directement qualificatif pour les playoffs. New York au 5e s'est rapproché de cet objectif en battant 101 à 92 Miami. 7e, Brooklyn 6e a vaincu Houston 123 à 114.
Merci, Bagassi.
Page de sport, VOA Afrique, signé Yakuba Woodrow.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Sénégal, un tribunal a condamné Ousmane Sonko à 2 mois de prison avec sursis pour diffamation à l'encontre du ministre du Tourisme, Mam Mbaye Niang. Le tribunal a aussi condamné M. Sonko, absent à l'audience, à verser 200 millions de francs CFA au ministre. Il a relaxé des délits d'injure et de faux. Cette peine préserve l'éligibilité de l'opposant sénégalais pour la présidentielle de 2024, selon ses avocats. Mais Ousmane Sonko reste suspendu à une autre procédure dans laquelle il est mis en cause pour des faits présumés de viol qu'il conteste. Yakuba Ouédraogo a joint à Dakar à Maître Amadou Ali Khan, avocat défenseur des droits de l'homme.
Je constate que c'est un verdict qui va plutôt dans le sens de l'apaisement, dans la mesure où d'abord il n'y a pas de peine privative de liberté, et ensuite la peine qui a été prononcée ne prive pas M. Ousmane Sonko de la possibilité d'être candidat à la présidentielle de 2024. Quant à la condamnation pécuniaire, je pense que en principe, elle ne devrait pas constituer un gros rouleau d'étranglement pour lui.
Que prévoit la loi sénégalaise, justement, en termes d'éligibilité par rapport aux différentes condamnations? Qu'est-ce qui priverait Sonko d'une éventuelle candidature à la présidentielle de 2024?
Si la condamnation avait dépassé 3 mois avec sursis, en ce moment, l'éligibilité serait engagée. Mais ce qui n'est pas le cas. Sauf si la juridiction relève le condamné, justement, de la déchéance électorale. Et heureusement, donc, cela n'est pas arrivé. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on voit qu'après la condamnation, il n'y a pas eu beaucoup d'agitation dans les rues à Dakar.
Est-ce que vous pensez que ce jugement va apaiser les ardeurs des différents partisans d'Ousmane Sonko, qui ont quand même vivement manifesté ces derniers temps?
On m'a dit qu'il y a un apaisement partiel, dans la mesure où il y a aussi une autre affaire qui est pendante, c'est l'affaire qui l'oppose à la dame Hadji Sarr, et qui porte sur l'accusation de viol, tentative d'assassinat, si je ne m'abuse. Et puis ensuite, toujours lié aux problèmes politiques, il y a aussi l'arrestation d'un grand nombre de ses partisans, notamment cette fameuse affaire dite du commando, et avant elle, celle dite des forces spéciales, où un certain nombre de ses partisans ont été appréhendés par la justice, font l'objet de poursuites pour des accusations, notamment portant sur des troubles à l'ordre public, et même l'atteinte à la sûreté de l'État. Donc on va dire que peut-être que ça, c'est le début d'un processus d'apaisement global.
Comment vous voyez la suite autour de toutes ces affaires présumées liées à Ousmane Sonko sur le plan juridique et politique?
C'est la politique qui va déterminer plutôt la dimension juridique des choses. Et je crois aussi que sur ce plan, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des bonnes volontés, aussi bien sur le plan national que sur le plan international, qui puissent intervenir ou essayer d'arrondir les angles. Parce que personne ne voudra que, après les situations d'instabilité qui ont été constatées au Mali, au Burkina Faso et ailleurs en Afrique de l'Ouest, que le Sénégal également rentre un peu dans l'œil du cyclone. Donc ça n'éclaire pas tous les amis du Sénégal, qu'ils soient africains ou internationaux, vont certainement s'investir pour essayer d'arrondir les angles. Et comme ici, la politique a une prégnance sur la justice, c'est donc de ce côté qu'il faut espérer peut-être le salut.
Maître Amadou Ali Khan, avocat défenseur des droits de l'homme.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Au Tchad, les conseillers nationaux ont validé le décret portant nationalisation de tous les actifs et tous les droits des compagnies pétrolières étrangères. Avec cette nationalisation, le Tchad sera le seul détenteur du projet pétrolier de Doba dans le sud du pays. Une décision diversement appréciée à N'Djamena. André Kodmajinga, notre correspondant de la capitale tchadienne, fait le point.
La nationalisation des compagnies étrangères qui exploitent le pétrole tchadien depuis plus de 25 ans n'a pas été planifiée par le gouvernement de transition, a déclaré le ministre en charge des hydrocarbures. Cette décision aura une lourde conséquence sur l'économie nationale, étant donné que depuis la mise en place de l'ajustement structurel, l'État tchadien est réputé mauvais gestionnaire, estime Max Kamkoué, juriste et économiste de formation.
Il faut qu'on arrête d'enfariner les Tchadiens. Un pays qui n'arrive même pas à gérer les recettes fiscales et douanières, les recettes non fiscales, qu'un pays endetté et en état de détresse financière, peut-il être à même de gérer des ressources national et des revenus pétroliers?
Techniquement, financièrement et juridiquement, cette décision ne se justifie pas et les conséquences sont inévitables et indéniables, a-t-il ajouté.
À ce niveau déjà, il va y avoir un tassement. Lequel tassement va conduire à la stagflation ou une récession économique globale sur l'ensemble du territoire? Le fait de prendre les actifs d'une société membre d'un consortium porte atteinte à ce qu'on appelle la sécurité juridique et judiciaire des investissements. Pour rentrer dans le secteur pétrolier, il faut avoir de l'expérience. Le Tchad n'a pas la capacité. Le Tchad n'a pas la compétence. Le Tchad n'a pas de ressources humaines. Où est-ce que le Tchad va tirer tout ça pour pouvoir lui-même produire, distribuer et commercialiser?
Le ministre des Hydrocarbures et de l'Énergie, Ndjira Samble Bemadjel, assure ses concitoyens sur des inquiétudes liées à la légitimité de l'acte du chef de l'État et le risque juridique qui serait lié à cette décision.
C'est en connaissance de cause et l'État s'est entouré de bons avocats. Ce qu'ils ont fait de bien, c'est le transfert de compétences. Aujourd'hui, c'est les Tchadiens qui opère tous ces équipements extrêmement complexes. Et d'ailleurs, depuis la reprise en main par les Tchadiens, on a augmenté de 10% la production. Alors que cette production, elle était plus basse depuis presque une année. Mais pourquoi on a encore besoin même des compagnies étrangères pour exploiter le pétrole?
Pour le ministre des Hydrocarbures, tout serait parti d'un constat amer qui tue l'économie nationale à travers le pipeline. Il précise que les trois membres du consortium ne payent pas des frais commerciaux pour exporter leur brut.
Mais eux, leur brut aujourd'hui, ça représente 30 000 barils. Sur chaque baril qui transite, ils versent 2,7 $ par baril aux membres du consortium. Mais quand vous calculez sur la quantité du brut exporté, c'est presque 300 millions de francs CFA par jour. Mais ils remettent encore comme coût pétrolier et ils déduisent de leur compte sur l'IS. Donc aujourd'hui, avec ce projet de nationalisation, le Tchad devient détenteur à 100% du projet d'Oba. Pourquoi ça va paraître quelque chose de dangereux, de mauvais pour notre économie?
Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, estime que les Tchadiens peuvent se réjouir de la décision du président de transition de nationaliser ses compagnies pétrolières.
On devrait faire ça depuis longtemps, parce qu'on nous a toujours critiqué qu'on ne contrôle absolument rien dans toute la procédure.
Certains Tchadiens estiment qu'avec cette nationalisation des compagnies pétrolières, toutes les conditions sont réunies pour mieux détourner les maigres ressources du Tchad. André Kodouma Dingar, Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Le Kenya a réceptionné le 20 mars 30 000 tonnes de blé en provenance d'Ukraine dans le cadre de l'initiative céréales d'Ukraine, mise en place par Moscou et Kiev sous la supervision de la Turquie et l'ONU. Une initiative qui permet l'exportation à titre humanitaire des céréales d'Ukraine bloquées par le conflit russo-ukrainien. Pour en savoir plus, Mohamed Doum fait cette entretenue avec le docteur Christopher Fomunio. Il est l'un des ambassadeurs de bonne volonté choisis par le président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s'assurer de la bonne marche de l'opération.
Les accords de Black Sea au mois de juillet 2022 devraient faciliter, créer un corridor humanitaire pour permettre à l'Ukraine de pouvoir évacuer ses céréales envers les pays demandeurs. C'était au moment où il fallait atténuer l'impact négatif de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, du fait que sur le marché on sentait une hausse incroyable des produits de première nécessité, que le blé se faisait rare à travers le monde et que l'Ukraine, qui par le passé contribuait à 15% de la production de blé à travers le monde, n'était plus en mesure de livrer ses exportations sur le marché mondial.
Dans ce cadre, vous êtes récemment rendu au Kenya, où vous avez assisté à la réception de 30 000 tonnes de blé venant d'Ukraine. Comment cela s'est passé?
Ça a été une cérémonie très émouvante, parce que vous savez, les circonstances qui obligent les populations à demander de l'aide, très souvent ces circonstances sont indépendamment de la volonté de ces populations. Pour le cas du Kenya, nous savons que le pays est frappé par une sécheresse inédite depuis 2021, le Kenya a déclaré officiellement être dans une situation de risque par rapport à l'insécurité alimentaire. C'était le premier bateau qui devait accoster à Mombasa pour le compte du Kenya. Et c'était très émouvant, les sourires et la joie qu'on captait sur les visages des populations, à savoir que pour les 4 mois qui viennent, plus de 600 000 personnes pourront être servies avec le tonnage qui est arrivé dans ce bateau.
Et après le Kenya, quelles sont les suites de cette initiative Green from Ukraine? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres pays bénéficiaires? Comment ça va se passer?
Lorsque nous sommes entrés en fonction au mois de janvier, j'ai été surpris de voir qu'il y a plus d'une vingtaine de pays africains qui ont fait la demande. Vous savez, selon une étude qui a été faite par le Programme alimentaire mondial, il y a 33 pays sur notre continent qui sont menacés par les risques de la famine. Donc si ce processus de grain from Ukraine peut apporter une contribution, même si c'est provisoire, ça va quand même soulager les populations de nos différents pays. Maintenant que l'accord a été prolongé le week-end dernier, j'estime que dans les mois qui viennent, on verra d'autres bateaux servir d'autres pays sur notre continent.
L'Afrique tend la main pour recevoir le blé d'Ukraine, mais c'est une situation qui ne peut perdurer. L'Afrique doit donc tirer les leçons. Quelles leçons l'Afrique doit tirer de ce conflit?
N'oublions pas que même l'Union africaine, en 2005, avait pris une résolution pour exiger que chacun des pays africains puisse réserver au moins 10% de son budget annuel dans des investissements agricoles. Mais les actions n'ont pas suivi. Donc je me dis que ce qui se passe à l'heure actuelle devait réveiller les consciences pour qu'on puisse investir davantage dans l'agriculture et qu'on puisse industrialiser même notre production agricole de manière à pouvoir donner satisfaction aux populations africaines, mais aussi à notre tour servir le reste du monde comme le fait actuellement un pays comme l'Ukraine.
C'était Dr Christopher Fumigno du Democratic National Institute. Les États-Unis ont annoncé hier un nouveau coup de pouce financier aux programmes qui font progresser la démocratie dans le monde. C'était à l'occasion de la deuxième édition du Sommet pour la démocratie convoqué par le président américain Joe Biden. Les détails avec Véronica Balderas Iglesias de la VOA, récit Jacques Aristide.
Les valeurs de la démocratie, de l'état de droit et du respect des droits de l'homme sont attaquées aux quatre coins du globe, a averti Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lors du sommet pour la démocratie.
Les murs se referment sur les espaces civiques, les droits constitutionnels sont restreints et les libertés civiles sont érodées. La liberté d'expression est en chute libre.
Antonio Guterres en a profité pour appeler les pays à rétablir la confiance et à lutter contre les inégalités. Pour le président américain Joe Biden, qui intervenait depuis la Maison-Blanche, il y a des signes réels que le vent a tourné vers davantage de démocratie sur la planète. La démocratie demande de gros efforts et la tâche n'est jamais finie, a-t-il toutefois ajouté.
Nous prévoyons d'ajouter 690 millions de dollars pour un nouveau financement de l'initiative présidentielle au cours des 2 prochaines années. Et au cours de 3 ans, mon administration a l'intention de travailler avec le Congrès pour s'engager à débourser 9,5 milliards de dollars dans tous nos efforts pour faire progresser la démocratie dans le monde.
Une attention particulière sera accordée à la technologie, du moins celle qui peut aider à améliorer la démocratie.
Au début de cette semaine, j'ai signé un décret ici aux États-Unis pour restreindre l'utilisation par le gouvernement américain de logiciels espions commerciaux qui ont été abusés pour cibler des dissidents, des militants et des journalistes du monde entier, y compris ici aux États-Unis.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a également pris part à l'événement virtuel, a rappelé au monde pourquoi il était crucial de soutenir son pays contre l'invasion russe.
La Russie est en guerre contre vous tous depuis longtemps, contre les démocrates du monde. Elle lutte par la désinformation, l'ingérence électorale, l'espionnage, la corruption, l'exportation, la cybercriminalité.
La démocratie est attaquée et il faut la relancer, a pour sa part déclaré le président sud-coréen Yoon Suk-yeol, l'un des co-organisateurs avec le Costa Rica, les Pays-Bas et la Zambie de ce sommet qui réunit les dirigeants de 121 pays et qui prend fin ce jeudi. Pour la Chine, qui n'a pas été invitée, cet événement attise la division au nom de la démocratie. La Russie a, elle, accusé les États-Unis d'hypocrisie.
Salut tout le monde, ici c'est votre commandant de bord, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Chaque semaine dans cet engin super fast, super sonic, super rapidos, vous voyagez avec nous dans une belle ambiance musicale. Nos sujets socio-culturels et hebdomadaires, nos invités de marque et nos segments du jour, l'anglais, le sport, la comédie et l'actualité en bref. Les tout dans RM Show, chaque soir entre 20h à 21h, temps universel. Chers passagers, ne ratez pas votre avion super sonic, super rapide.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro, à la mise en onde Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24.